gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toi, si tu es sur le 102.2 ou sur radiocanu.org, c'est l'heure de la causerie. Et oui, 22, 23, tous les dimanches, même le soir d'Halloween, et oui. Et ce soir, autour de la table, enfin surtout à la technique tout d'abord, nous avons Clara.
Bonsoir.
Qui peut mieux parler dans son nouveau micro technique installé. Voilà. On a aussi Jean-Yves autour de la table.
Bonsoir Fab.
Et bonsoir. Alors ce soir, une émission un peu traditionnelle, pas d'invités, des chroniques. Et avant de démarrer, on va dédier cette émission aux Soudanais et à tous les humains de cette petite planète qui se battent pour avoir plus de liberté. Voilà, tout simplement. Et oui, alors du coup, si tu veux nous jouer, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Et si tu veux nous écouter en différé, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie. Ou alors tu tapes la causerie canu dans tous les trucs où il y a des podcasts qui traînent. Normalement, on devrait y être. Et sinon, tu peux nous trouver sur un réseau socio-commercial dont on taira le nom, même si maintenant il est vachement plus méta qu'avant. Voilà. Et donc, du coup, on va démarrer cette soirée avec un désintégration. Un gage en règle de ces papas modernes et je n'ai plus de micro. Voilà.
Si c'est bon. Ah mais c'est bizarre, moi aussi j'ai l'impression que tu es là.
Ouais, il y a eu un truc bizarre sur les casques, okay. C'est pas grave. Et donc du coup, Jean-Yves, c'est toi qui démarres. Et donc,
ce soir, en fait, j'ai eu envie de parler de stars, de phénomènes, que dis-je, de super-héros. À savoir les hommes qui sont pères et aussi ceux qui prennent part à ce qu'on appelle le travail domestique. Alors vous avez certainement déjà entendu, comme moi, à moins que vous ne viviez qu'avec des gens éclairés, totalement déconstruits, bref, à moins que vous viviez dans un ghetto, vous avez certainement donc déjà entendu de la part de personnes, parlant d'un mec qui prend part donc aux tâches, ou d'un mec qui est père et qui promène son enfant, qui s'en occupe, dire que bravo, c'est super, ou encore, non mais vraiment, un mec qui aide, ça court pas les rues, ou encore, sa copine doit être contente. Et des fois, ça vient même des mecs eux-mêmes, tu vois, parce que
histoire
d'être sûr d'être glorifié, quoi.
Même des fois, des femmes elles-mêmes qui disent, oh là là, il t'aide.
Et ce genre de propos, en fait, ça me surprend toujours, à minima. Et je me disais donc qu'il serait intéressant de revenir sur certaines choses autour de ce prétendu partage des tâches ou du travail domestique ou encore de l'investissement dans le rôle de père à l'aide de différents articles donc. Le premier qui est issu de la RTBF, donc des amis belges, date de la fin 2019 et il nous parle en fait d'une enquête menée auprès d'un échantillon de 5026 personnes représentatives de la population féminine européenne. Attention, on va avoir du chiffre. Donc, n'hésitez pas à les noter pour y repenser après le générique de fin, en fait. Parce que ça peut être, je sais que j'ai déjà eu ce genre de retour, que merde, si tu nous donnes trop de chiffres, ça devient compliqué. Donc, effectivement, cette enquête nous révèle que 3/4 des femmes, donc 75%, allez, un premier chiffre, déclarent réaliser plus de tâches domestiques que leurs conjoints. En France, c'est 73% des femmes qui estiment faire plus de tâches ménagères que leurs partenaires, dont 36% chez les femmes de moins de 30 ans. On peut se demander si effectivement il y a là une fracture générationnelle, ou en tout cas une évolution générationnelle. On verra plus tard. Du côté des hommes, hein, seulement 16% estiment faire plus de tâches que leur conjointe. On peut aussi se demander si au début d'une relation, en tout cas on pourrait l'imaginer, que les hommes en fait s'impliquent davantage. Puisque les situations où les femmes s'occupent plus du foyer que leur conjoint sont majoritairement évoquées au sein des relations de couple durant depuis moins d'un an. Donc, on est à 65% des couples.
Ah, ça veut dire qu'on n'en parle pas la première année.
En tout cas, c'est que ouais, c'est posé comme ça, quoi. C'est comme ça, en tout cas, que les choses sont faites. Alors, on peut se demander aussi, est-ce que la répartition justement des tâches ménagères au sein du foyer représente un sujet de dispute ? Pour 48% des sondés, en particulier au sein des couples qui ont moins de 3 ans. Donc effectivement, il semblerait que ces disputes, en tout cas ces confrontations de points de vue, aident à améliorer les choses, vu que la situation s'améliore, selon l'avancée en durée de couple, sans atteindre évidemment une juste répartition pour les couples plus anciens. Alors, on peut se demander, mais que font donc les hommes ? L'enquête, toujours cette enquête de 5026 personnes, l'enquête en fait, elle montre que, par exemple, 75% des femmes vivent avec un homme qui sort les poubelles ou qui fait la vaisselle sans rechigner. Là, j'ai envie de dire bravo, ouais, wouh, super, ouais. C'est dingue, ils arrivent à descendre une poubelle. Oh putain, alors ça, si c'est pas une avancée.
Non, mais c'est bien.
Pardon. Oui, non, mais quand même.
C'est énorme.
C'est ça. Par contre, ce n'est pas du tout la même, en fait, en ce qui concerne les tâches, comme par exemple, les courses ou la gestion du linge. Tu vois ? Là, on est à 28% de sondés qui déclarent avoir un conjoint qui fait les courses uniquement sous la contrainte.
D'une arme ou... Non. On comprend bien la notion de contrainte. C'est-à-dire, quand il n'y a plus rien dans le frigo, il faut aller faire les courses.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et que ça ne revient pas tout seul dans le frigo. Je vais y aller. Par ailleurs, on a 50% des femmes en fait, qui déclarent que... une femme sur deux qui déclare que son compagnon ne trie jamais le linge et ne fait jamais de machine, ou encore qu'il ne nettoie jamais les sanitaires.
Et pourtant, depuis que les hommes font un peu plus, c'est un peu le syndrome de la poussette magique. Vous savez, c'est le truc avant, les poussettes, pour les fermer, c'était impossible. Puis quand les hommes ont commencé à promener leur bébé, on a inventé les poussettes avec un bouton qui se fermait, vous savez. En fait, là, on a inventé la lingette anti-machin, tous les systèmes en fait, de livraison de bouffe. En fait, tout ça, c'est lié toujours pareil. Parce que comme ces messieurs sont obligés de faire, il faut qu'ils trouvent des solutions pour
Faut faire plus simple, parce qu'ils comprennent pas.
Non, surtout qu'on voit bien où se situe le pouvoir dans cette société, et qui a le pouvoir de changer cette société à sa guise.
C'est exactement ça. Et alors le deuxième article, qui est de France Culture cette fois, pour nourrir la réflexion en fait, date de 2020 et part d'une étude en fait et de la réflexion quant à la manière en fait de faire les études sur ce sujet-là en fait. Et ce qui est hyper, effectivement, c'est intéressant. Dans les couples hétérosexuels, les femmes en font toujours davantage au chronomètre, y compris lorsqu'elles travaillent. Il y a une sociologue, Michel Ferrand, qui dans son livre « Repères masculins-féminins » de 2004, notait que la part des hommes dans le travail domestique passe de 21,8% quand il a une conjointe inactive à 35,1% quand elle est active professionnellement. Donc déjà... on se dit, l'autre, attends, la baraque, je vais pas tout faire, je vais même rien faire, en fait. Donc voilà. Là aussi, juste comme ça à côté, mais on peut aussi s'interroger. Je trouve que ça serait hyper intéressant aussi d'élargir finalement ce genre d'analyse ou de réflexion sur les couples non hétérosexuels. Parce que.
Il y avait une étude qui avait été faite et qui démontrait, alors je ne me rappelle plus de quand, je crois qu'elle est suédoise de mémoire, que justement sur les couples lesbiens ou homosexuels hommes, en fait, ce qui se produisait, c'est que quand un des deux était, ou une des deux était au chômage ou choses comme ça, elle surcompensait ou il surcompensait. Mmh. C'est-à-dire, il fait les choses pour dire j'ai quand même fait quelque chose dans la journée. Et en fait, c'est aussi du patriarcat. C'est l'idée que si on est à la maison, on n'est pas là pour rien faire. Vous voyez le.
Oui.
Voilà.
Mais ouais, ouais j'aurais pu chercher effectivement.
Non, non, mais je, c'est parce qu'on avait, on a parlé il y a très longtemps dans une causerie et je me rappelle qu'on avait abordé le sujet.
Ok. Alors on est effectivement, on n'est pas dans un partage des tâches hein, qu'on pourrait appeler donc plus juste quand même. Quand on passe de 21 à 35%, c'est pas non plus la panacée. Hein.
Ah mais d'après les médias, les papas modernes, ils sont top de
ouais,
top.
Ouais, c'est
hein.
ça. Mais surtout, justement, c'est quand on entre dans les détails en fait. C'est encore pire. Alors, plus les tâches en fait sont répétitives, moins créatives et les plus fréquentes, et plus elles sont laissées aux femmes.
Genre changer les couches.
Par exemple. Okay. Par exemple. Par exemple, justement, à l'intérieur de ce qu'on appelle le travail domestique, si on y intègre le jardinage, le bricolage, voire le fait de jouer avec les enfants et pas seulement les changer ou leur donner le shampoing quand ils détestent ça, la répartition est moins inégalitaire aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Mais, parce qu'il y a un mais, dès que le terme travail domestique ne comprend plus que la cuisine, le ménage, les soins matériels aux enfants, les courses et le soin du linge,
la vie quoi,
c'est ça, bah, le volume pris en charge exclusivement par les femmes, bah, il explose. Bah ouais, forcément. Si t'enlèves le bricolage, bah ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, on répare un frein, on monte un placard ou on taille une haie bien moins souvent quand même hein, qu'on étend une machine. Hein, donc...
Sauf si t'as des haies qui poussent très 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 vite, mais c'est assez rare c'est quand ça. Même,
globalement. C'est ça, faut vraiment que ça pousse très 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 vite alors. Hein. Et effectivement, hein, tout cela en fait pose la question de la méthodologie en fait en matière de travail domestique, puis, puisque c'est en fait ce que vous inclurez dedans qui vous donnera la répartition précise selon le genre en fait. Et effectivement, c'est je pense que oui, c'est hyper intéressant de noter ça en fait, de se dire tiens. Comment, qu'est-ce qu'on prend en compte quand on parle de répartition du travail dit domestique?
Je me souviens d'un reportage qui était passé sur Arte, dans je ne sais plus lequel de leurs magazines, où en fait ils montraient, alors ça se passait en Italie, alors c'est pas pour stigmatiser les Italiens, non, c'est non, que non. Le reportage était tourné en Italie, les Français font la même chose, et ils montraient en fait les hommes qui commençaient à bricoler, mais qui finissaient pas pour pouvoir ne pas faire autre chose le lendemain bah ouais. et reprendre le bricolage. Et les gars, en fait, le disaient devant la caméra en disant « Non, mais en fait, comme ça, demain, bon, normalement, on doit emmener les enfants au parc, mais moi, je finirai ça. » Et en fait, c'est drôle parce qu'on voit que c'est même pas non pensé, c'est aussi pensé par moment comme étant un moyen d'éviter les trucs un peu emmerdants. Quoi,
c'est exactement voilà. ça. Donc, il n'existe pas en fait une seule façon, hein, ce qu'on disait un petit peu, quoi, de comptabiliser en fait le travail domestique, mais des définitions plus ou moins resserrées qui révèlent des écarts plus ou moins grands entre les hommes et les femmes en fait. Donc, on peut retenir en fait que plus on a une vision large du travail domestique, et plus les hommes sont impliqués. À l'inverse, plus on a une vision resserrée autour des tâches les plus récurrentes, parce qu'effectivement, hein, on taille pas la haie tous les jours, les plus répétitives, et plus l'écart en fait est fort. Et selon justement une étude, une enquête de l'INSEE de 2010, sur l'incidence de chaque façon de compter, le travail domestique en fait incombe à, tenez-vous bien, si on a une définition extensive, hein, qui inclurait toute une série d'activités à la frontière du loisir, et notamment le bricolage et le jardinage, on est à 60% qui est du fait des femmes, en fait.
Qui revient aux femmes.
Qui revient aux femmes, ouais. Plutôt, effectivement. Si on a une vision, une définition intermédiaire, et ben là, on arrive à 64% qui revient aux femmes. Et si on a une définition resserrée du travail domestique, et ben là en fait on arrive à 72% du travail qui est fait par les femmes en fait, travail domestique qui est fait par les femmes en fait.
Mais d'ailleurs on voit bien aussi comment on genre les choses, parce que finalement on dit le bricolage c'est plutôt les hommes, alors que bon une femme peut parfaitement bricoler, le tailler les haies c'est pas plutôt les hommes, alors qu'une femme peut parfaitement tailler les haies, et en fait c'est ça en fait, c'est que même là on voit qu'on genre aussi les activités, parce que on dit ah ça c'est réservé aux hommes, mais sauf que non quoi, et donc ça crée forcément en plus cette espèce d'écart où les tâches les moins nobles, je mets des guillemets à ce que je dis, sont dévolues aux femmes, parce que bon après tout elles font ce qu'elles peuvent faire, les pauvres filles, tu vois, comme dirait un certain Eric. Enfin oui. Voilà.
Mais justement, en fait, j'aborde ça dans le dernier article. Pardon. Justement. Non, mais c'est pas grave. Qui en fait est une étude de l'INED qui date de 2020, donc vraiment pas vieille du tout, et qui porte en fait sur la répartition des travaux domestiques depuis la mise en place des 35 heures. Parce qu'on peut se dire, bah ouais, attends, 35 heures, c'est le même temps pour tout le monde en fait. Eh bien, Parce que justement, en libérant du temps, la réforme des 35 heures a modifié l'organisation des activités domestiques des hommes et des femmes en termes de durée, de type de tâches réalisées et de répartition entre week-end et semaine. Donc, s'appuyant en fait sur la dernière enquête sur l'emploi du temps des Français, qui elle remonte à 2010 de l'INSEE, Ariane Paillet et Anne Solaz, chercheuses à l'INED, ont réalisé avec Arthur Souletti l'une des rares études permettant d'évaluer les conséquences de cette réforme dans la sphère privée. Et si le temps libéré par la réforme est identique, on s'en doute bien, son utilisation diffère selon les sexes. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Les femmes restent responsables des tâches ménagères courantes et répétitives, tandis que les hommes effectuent des tâches plus flexibles dans le temps et assouplissent ainsi leur emploi du temps. Donc, à caractéristiques égales, je butais sur le mot.
C'est dur à dire.
Avant de passer, ouais. Les hommes qui sont aux 35 heures, en fait, consacrent plus de temps aux activités domestiques que leurs homologues aux 39 heures. Environ 12 minutes en moyenne de plus.
Ouais, c'est quand même
par
pas
jour.
C'est pas énorme quand même.
Non, on est d'accord. Les jours de semaine, ils passent plus de temps à des tâches telles que le bricolage ou le jardinage, les démarches administratives et la garde d'enfants dites récréatives, libérant enfin ainsi du temps sur leur week-end où ils y consacrent en revanche moins de temps.
Oui, donc en fait, ils compensent.
Ils sont malins. Donc, travailler à 35 heures ne conduit pas les femmes à passer plus de temps aux tâches domestiques, mais à en consacrer davantage à leurs enfants, dans des tâches de soins principalement. Qu'elles travaillent donc à 35 ou 39 heures, les femmes font très rarement du bricolage, 89% n'en font jamais, et tandis que la plupart des hommes ne font jamais de repassage, on est à 86%. En revanche, une majorité de femmes font la cuisine, la vaisselle et le ménage quotidiennement. Donc, contrairement à ces tâches courantes et répétitives effectuées par les femmes, celles effectuées par les hommes sont celles qu'ils choisissent et leur permettent de mieux réorganiser leur emploi du temps entre semaine et week-end.
Le tout sur le dos des femmes.
Mais bien sûr. De toute façon, s'il y en a un qui en fout moins, c'est que forcément l'autre en fout plus.
Je fais une petite parenthèse, ouais. Mais ça se voit beaucoup dans le milieu militant où une majorité des gens qui ont le temps de militer sont des hommes. Et souvent, on entend toujours dans ces milieux-là, oh mais ça c'est parce que les femmes elles osent pas. Alors non, c'est plutôt que messieurs, quand vous êtes là et que vos deux ou trois enfants sont avec votre épouse ou votre conjointe ou votre compagne, bah en fait, et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Parce que vous n'êtes pas avec vos trois enfants ou deux enfants. Donc en fait, on voit même dans le milieu militant ce biais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens disent « Oh mais s'il y a peu de femmes, ouais, c'est qu'elles ne veulent pas. » Bah non, c'est qu'en fait, vous avez réorganisé votre temps et votre militance fait partie d'un temps que vous avez décidé de consacrer. Et ce temps, vous l'avez pris sur le dos de la personne qui partage votre vie généralement.
Mais non, ça ne peut pas exister ça dans des milieux militants.
Oh, si.
Ah bon? Donc voilà. On m'aurait menti. Enfin bon, effectivement, donc, la répartition des tâches en fait, est le plus genrée encore le week-end, lorsque leur exécution est plus visible socialement. Cette utilisation spécifique de la même quantité de temps supplémentaire par les hommes et les femmes montre que la répartition des tâches domestiques n'est pas seulement une question de disponibilité de temps, mais qu'elle est aussi profondément genrée. On rejoint ce que tu disais tout à l'heure. L'utilisation de ce temps correspond aux stéréotypes et normes de genre qu'on peut dire habituels, entre guillemets, ou traditionnels. Là aussi, j'aime pas trop dire ça, mais c'est...
Quand il y a deux hommes qui vivent ensemble, qui fait la cuisine? Vous voyez, c'est comment vous allez manger. Vous voyez, c'est un peu le truc. Bah voilà, c'est la tradition. C'est-à-dire, normalement, c'est les femmes qui font à manger. Donc, c'est comment vous faites. Voilà, c'est ce genre de phrase, vous voyez, pour donner un exemple.
Donc, les comportements des hommes et des femmes pendant les week-ends illustrent ce phénomène à merveille. Avec un surinvestissement dans les tâches socialement stéréotypées, ce qu'on disait tout à l'heure, bricolage et jardinage pour les hommes et garde d'enfants pour les femmes, et un sous-investissement pour les hommes dans les travaux ménagers. Notamment, ça rejoint ce qu'on disait tout au début, s'agissant du ménage et du linge. Voilà, on a tout. Donc les femmes, hein, qui sont aux 35 heures consacrent ce temps supplémentaire en grande partie aux enfants plutôt qu'à tâches ménagères. Alors ce résultat est conforme à la tendance croissante, ce que dit l'article et l'étude, à consacrer plus de temps aux activités parentales au fil du temps, qui a été observé dans les pays développés, dits développés en tout cas. Si l'article, hein, affirme que l'utilisation du temps confirme l'évolution des normes parentales et que les enfants reçoivent plus d'attention et de temps de la part des parents parce que l'investissement parental est désormais considéré comme une nécessité, ce qui peut être bénéfique pour, évidemment, pour l'enfant, pour les enfants.
On va pas nier que c'est mieux.
Mais bien sûr que non. Sauf que même là, en fait, on sait que l'investissement des pères et des mères n'est pas le même, en fait. Donc, évidemment, hein, c'est ce que je me disais à, suite à tout ça, c'est que mon envie, elle est absolument pas de nier ici une part du réel, pas envie de nier les changements qui peuvent avoir lieu ici ou là, c'est pas du tout mon propos.
Mais ils sont lents.
Parce qu'une avancée, effectivement, c'est, ça reste toujours mieux qu'une reculade. Mais bon, c'est...
Mais là, c'est une avancée à petits pas, quand même. Hein,
C'est exactement ça.
c'est un micro pas en avant, quoi.
C'est ça. Par contre, effectivement, hein, ce que je me disais, c'est qu'on t'est pas sur moi, en fait, pour glorifier les mecs qui prennent part aux travaux domestiques, parce que bah, vivre, c'est aussi le travail domestique, en fait, et que les mecs célibataires les font aussi sans qu'on leur délivre de diplôme ou qu'on leur dise « Ouais, bravo, c'est super, c'est, oui, tu t'entasses pas dans ta merde, c'est génial !»
S'ils le font pas, ils meurent de faim.
Ah mais ouais, c'est fou.
Mais non, mais on voit en fait le truc, effectivement, hein, qui est extrêmement patriarcal, de la répartition des rôles, et qui est presque une sorte d'habitude, je sais pas comment dire, mais vous voyez à plein de détails, mais si vous allez des fois au restaurant, si une bouteille de vin arrive, on va le faire goûter à un homme, même s'il boit pas de vin, parce que c'est, voilà. Et en fait, ces détails-là, en fait, mis bout à bout, et ben, même dans la vie de tous les jours, hein, c'est comme quand on demande à une femme, quand vous allez acheter une machine à laver, vous êtes un homme et une femme, en général, on se tourne vers madame pour dire, vous voulez quel modèle? Vous voyez, alors que bah monsieur, il veut peut-être essayer de faire les lessives, ce serait bien quand même. Oui.
Bah, je l'ai enlevé, mais j'avais cet exemple-là majoritairement, vu que ce sont les femmes qui s'occupent du linge, en fait, c'est elles qui choisissent l'outil.
Mais oui, et en plus, même dans les magasins, c'est tourné comme ça. On sait que les espaces high-tech sont plutôt orientés masculins, et les espaces high-tech, mais plutôt laveries, sont orientés féminins. C'est volontaire, en fait, et on met des vendeuses plutôt vers les machines à laver et des vendeurs plutôt vers les télé, voyez.
C'est ça. Donc je glorifie pas, hein, les mecs qui prennent part aux travaux domestiques, tout comme je ne glorifierai pas non plus les mecs qui sont pères parce qu'ils s'occupent de leur enfant.
C'est le minimum, quoi.
Parce qu'ils leur torchent le cul, parce qu'ils leur donnent le biberon, ou se lèvent encore la nuit, ou parce qu'ils s'occupent de les récupérer à la garderie. Parce que, ouais, en fait, avoir un enfant, en fait, c'est pas juste baiser, se vider les burnes, et jouir d'avoir enfanté, et créer un prolongement de soi qui donne une sensation d'immortalité. Non, non, en fait, avoir un enfant, c'est tout. Vous voyez ?
C'est s'en occuper.
C'est ça, en fait. Donc, non, je glorifierai pas les personnes qui s'inscrivent dans les luttes pour une société d'égalité, pour une société où les rôles, selon si vous êtes mec ou meuf, n'existeront plus. Bah, sinon, je me dis, pourquoi, en fait, est-ce qu'on donnerait pas aussi un diplôme où on glorifierait pas, bah, je sais pas, moi, genre les gens qui ne subissent pas le racisme, mais qui s'investissent ou qui s'inscrivent dans la lutte contre la société, pour une société sans racisme. Genre, ouais, trop bien, tu luttes contre le racisme, mais non, en fait, c'est juste...
Normal.
Normal, en fait. Pourquoi, on peut aller très loin, pourquoi on glorifierait pas les personnes qui ne violent pas les enfants? Parce qu'elles s'inscrivent dans les luttes pour une société sans chosification des enfants. Ça viendrait à l'idée de personne de dire waouh, trop bien, bravo, tu violes pas. Mais non, en fait, c'est juste normal, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment tout ça, ça me hérisse le poil. Donc, je ne glorifierais absolument personne parce que lorsqu'on lutte, en fait, pour une telle société où l'on se débarrasserait de la hiérarchie et donc du pouvoir et donc de l'abus de pouvoir entre hommes et femmes, entre adultes et enfants, entre blancs et non-blancs, et encore, c'est selon où l'on vit, entre valides et non-valides, etc., etc., parce qu'on lutte. Donc pour une telle société, non pas pour être glorifié, mais bien parce qu'on pense nos combats justes, parce qu'on souhaite sincèrement des changements de société pour lesquels on lutte, en fait. Et rien d'autre, pas pour des diplômes et des glorifications. Et ces glorifications, en fait, selon moi, en fait, bah, elles sont plutôt les preuves qu'on est toujours dans une société de hiérarchie et qu'on traîne encore énormément de scories de toute cette merde, en fait. Et que cela prenne, en fait, la forme de « bravo, c'est super » ou de diplôme de « t'es un super allié », et ben, en fait, on s'inscrit, on fait que s'inscrire dans une société finalement différentialiste, dans une société hiérarchisée, Et je pense en fait que lorsqu'on dénonce cette société, on essaye de ne pas reproduire ce qui la soit. Voilà.
Bah, merci.
C'est tout pour moi. Je vous remercie.
Drop the mic.
Non, mais voilà. Enfin, c'était juste. Je sais pas si ça résonnera aux oreilles de nos auditeurs ou auditrices, mais.
Non, mais c'est vrai que c'est agaçant. Enfin, moi, je trouve, il y a beaucoup d'exemples à la radio, à la télé, au cinéma, où on vous présente en fait le fait de s'occuper quand vous êtes un homme des enfants un minimum comme quelque chose d'extraordinaire.
Bah ouais, mais
ça devrait être la norme. Quoi.
Mais c'est même pas que dans la télé, dans la radio,
non,
dans
la
film.
Vie.
C'est dans. Ouais, c'est vraiment. Je m'appuie plus sur ce qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours.
Non, mais je prenais ces exemples-là parce que pour dire que.
Après, c'est un prolongement.
Hein. Moi, je dis toujours, hein, c'est pas la télévision qui fait la société, c'est la télévision est souvent un reflet de la société et inversement. Et le cinéma, pareil. Donc, en fait, voilà. Et donc, du coup, en fait, ce qui se produit, c'est ça, c'est qu'on voit que c'est exacerbé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de productions où vous avez des nouveaux papas. Vous savez, c'est. Voilà. Et en fait, c'est assez affligeant parce que finalement, ça va se résumer à. Ah là là, lui, il est moderne parce qu'il prend son fils par l'épaule pour lui montrer comment on change les de la voiture, quoi.
Oui, c'est ça.
Et, je veux dire, c'est assez ridicule. Et ce genre de truc-là, mis bout à bout, on voit que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit pas, quoi. Et il y a vraiment du taf à faire. Et ça, c'est pas si compliqué, quoi. Enfin, honnêtement, réfléchir sur sa position dans sa famille, c'est pas très compliqué. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut avoir envie de le faire.
C'est ça, en fait. C'est ouais. Que, oui, effectivement, c'est... Mais après, c'est encore une fois, c'est toujours continuer de s'interroger, en fait, et pas de se satisfaire.
Quand je dis s'interroger de sa position, c'est ça.
Oui,
c'est pas
ça,
se dire, là, ça va, tout va bien. C'est dire, est-ce que vraiment ça va
c'est
et
ça.
Poser les choses, est-ce que ça suffit, est-ce que c'est... Oui. Voilà. Et puis demander aussi à la personne qui partage votre vie, ça va.
Oui.
Comment tu te sens,
enfin, et voilà. Que vous pouvez aussi, vous, dire que ça ne va pas.
Ouais,
c'est aussi, enfin, je pense que c'est aussi ça, parce que finalement, celui qui est dans le bon rôle d'en foutre un minimum, pourquoi il irait poser la question ou dire ça va comme ça? Bah non, et en fait, il n'a pas intérêt à la poser parce qu'il risque de se prendre dans la gueule que non, en fait, ça ne va pas.
Souvent, il le sait.
Mais oui, bien évidemment. Donc, c'est aussi.
Il la pose pas la question.
C'est aussi, je pense, aux personnes qui subissent plus les situations ou en tout cas les trucs comme ça, d'apprendre à se dire, bah en fait, non, là, on n'est pas dans un rapport. Juste en fait équitable entre ce que tu fous et ce que moi je fous, quoi. C'est-à-dire que tailler la haie, tondre le gazon, tu m'excuses, mais c'est pas tous les jours en fait. Alors que torcher un cul, amener un gosse à l'école, c'est tous les jours en fait. Donc c'est vraiment, c'est aussi, n'hésitez
enfin,
pas.
Jusqu'à ce qu'il soit propre.
Oui. Oui, effectivement. Bon, bah, on va passer à la musique alors, sans absolument aucune transition, parce qu'il y a absolument aucun rapport. Voilà. À tout de suite.
Yeah. I it's a double revolution. Come at me tell your musical education. I do, it's a double revolution. Come at me tell your musical education. Yeah. Every day start from scratch, yeah. And the tapa papa tapa tapa tap. King Tuppy have the whole place lock. And from them the time that the dub never stop, yeah. From Jamaica the dub island, yeah. We send the dub across every nation. So they play it on them sound and them radio station. So I and I make a little contribution. In the dub revolution. Right, you know it is a music education. How we miss it, it's a double revolution. Come let me tell you musical education. Yeah, speaker kick a missile like wild bull. Nobody not sleep, dance all full. The people get selector, MC all on pull. All on pull, selector, big chun. Causing dub, the man no fake. And when him play him dub, then the whole place a shake. So watch it, make him drop another big dub plate. Dub revolution. Come make me tell you musical education. A true galang. Dub revolution. Come make me tell you musical education. Them dub, if I dub them want. Play side B, make the DJ chant. Good music, make the people them rock. Give them music, make them rock non-stop. Rock them, I move them feet. Good music, make them feel so sweet. Yes, I just play dub, you know. Yeah, dub.
motion. Come let me tell you musical education.
À l'écoute de Radio Canu et plus précisément la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h et nous venons d'écouter un tout nouveau titre de Ayton Zenzile et le chanteur Nazamba avec le titre, vous l'aurez compris, Dub Revolution.
T'as pas la voix aussi grave que lui.
Non, je sais.
T'as tenté, mais...
Non, c'est foutu. Hein. Je veux dire, dès le départ, on n'est pas sur la même gamme.
Longueur d'onde de voix.
Et ben donc, c'est Fab qui prend la suite. Et toi, ouais, tu veux nous parler de La Vie en Rubis.
Oui, c'est beau. C'est joli hein, comme
c'est
titre.
C'est très,
la
très
Vie
beau.
En Rubis. Alors, la vie, ben, c'est quand même une sacrée question, hein, quand on y réfléchit. Depuis que l'humain s'interroge, il se questionne sur la vie, sur ce qu'elle est depuis à peu près, depuis combien de temps elle est présente sur Terre, tout ça. Alors, on va rappeler que notre planète, hein, elle a 4,6 milliards d'années. Voilà. Faut se rappeler de ça. Ce petit caillou au lancer très très vite a 4,6 milliards d'années. Et la question est, mais quand est apparue la vie? Parce que c'est ça la vraie bonne question. Alors les religions, elles ont tenté de répondre à cette question.
C'est ce que j'allais dire.
Ah oui.
Tu as avancé un chiffre de 4 milliards.
Ouais, alors ils avaient un problème de compteur. On va le voir tout de suite. Donc la vie aurait, selon à quelle croyance vous vous rattachez, hein, exact, là, débrouillez-vous, entre 18 000 et 6 000 ans, en gros. Bon. C'est un peu court. Alors, soyons honnêtes, on sait quand même que tout ce que racontent les religions n'est que fumisterie et fadaise. Hein. On va pas non plus...
Voilà. Quoi ?
Ah non, mais oui, je peux le redire. Fumisterie et fadaise. Mais cela démontre que cette question, en fait, elle est au cœur aussi des textes dits sacrés. Et donc, en fait, elle est dans les questionnements que les humains se posent depuis très très longtemps. Et c'est donc une réelle préoccupation humaine.
Ah bah, de toute façon, enfin, le principe des religieux, c'est d'expliquer la vie.
Oui.
Donc
voilà.
Finalement, c'est qu'effectivement, non mais c'est au cœur de l'interrogation finalement.
Ouais.
Et là, c'est apporter une réponse toute prête en fait quoi.
Donc, il est plutôt logique que de voir aujourd'hui les sciences se pencher sur cette question et sur le sujet. Alors, et on peut dire hein, que plus le temps avance et plus on en sait. Alors, la première surprise, alors elle date d'il y a plusieurs siècles hein, déjà cette surprise, ça a été la découverte des dinosaures. Enfin, plutôt de leur squelette fossilisé, hein, parce qu'on les a pas croisés, je vous rappelle.
Et heureusement, j'ai envie de te dire.
Ouais, parce qu'on n'aurait pas fait très long feu. Donc, alors, il a bien fallu comprendre hein, que si la vie a existé avant nous, elle a aussi été, en plus, représentée par des animaux immenses, beaucoup plus grands et puissants que nous, et beaucoup plus massifs. Mais depuis, en fait, on cherche des traces de vie plus anciennes encore que les dinosaures et les plus anciennes possibles. Car si on sait que la vie est née il y a des milliers, des millions, voire des milliards d'années, et honnêtement, on est plutôt proche du milliard et des milliards d'années, on ne sait pas encore quand exactement. C'est ça, en fait, qui perturbe un petit peu les scientifiques. Donc, les hypothèses les plus récentes, hein, elles font état de l'apparition de la vie sous des formes d'organismes unicellulaires, comme les bactéries, autour de 3,8 milliards d'années voilà, il y a 3,8 milliards d'années en partant de maintenant. Alors ça, c'est une estimation, hein, parce que pour les scientifiques, les conditions de la Terre à cette époque, soit environ 1 milliard d'années après sa stabilisation en planète dans le système solaire, vous voyez, c'est des chiffres assez importants, hein, c'est dur à suivre, mais voilà, sachez que ça a pris un petit moment. Voilà. Était propice à l'émergence en fait, des formes de vie. En fait, c'est ça, en fait. C'est, on se dit, à ce moment-là, vu que la croûte terrestre est suffisamment refroidie, qu'on a de la présence d'eau, qu'il y a tout et qu'il y a la photosynthèse, parce qu'il y a déjà le soleil qui tape sur la Terre, hein, il était déjà là, lui. Hein. Donc, du coup, bah, tout est réuni pour que la vie puisse apparaître. Donc, en fait, cette estimation est à 3,8 milliards aujourd'hui. Voilà. Et en fait, bah, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a que 700 millions d'années, donc moins d'un milliard, 700 millions d'années, en fait, la vie multicellulaire est apparue. C'est-à-dire avec plusieurs cellules, des petits escargots, des trucs comme ça, vous voyez, des machins avec des papattes, voilà. Ben ça, c'était il y a 700 millions d'années. C'est pas... Oui, les escargots n'ont pas de pattes, je sais, mais...
Oui, je me suis dit, attends, le gars, il parle scientifique et il sait même pas que les escargots n'ont pas de pattes, quoi.
Mais non, parce qu'il y avait des arthropodes aussi, les arthropodes, ils ont des pattes. Voilà. Donc, en fait, il faut juste pour qu'on voit, c'est 3 milliards d'années, en fait, après les premières formes, traces de vie. C'est-à-dire qu'on est 3 milliards d'années après quand on a de la vie dite complexe qui apparaît. Oui. Et juste pour qu'on se rappelle, l'être humain, hein, nous, c'est-à-dire le truc bizarre qui vous parle dans un micro, vous qui écoutez, les gens qui font des bombes atomiques et ceux qui essayent d'empêcher d'en faire, eh ben, en fait, on aurait entre 200 000 et 300 000 ans, à peu près. Voilà. Donc, en gros, nous, on est une toute microseconde dans la vie de la planète, hein, pour être très clair. Voilà. Donc, le problème des scientifiques, vous le savez, c'est contrairement aux religieux, ils n'écrivent pas juste un livre en disant « c'est comme ça ». Non, ils ont besoin de preuves. Donc, le souci, hein, c'est qu'on ne peut pas trouver de traces de formes de vie d'il y a 3 milliards d'années. Hein, c'est très difficile d'imaginer de trouver un fossile de bactérie. Vous voyez, ça, la taille d'une bactérie. Mais on sait, en fait, depuis longtemps que des traces de vie pourraient être piégées dans des pierres dites semi-précieuses ou précieuses, genre rubis, émeraudes, diamants, tout ça, parce que ces pierres, elles enferment ce qui les entoure quand elles se créent. Donc, potentiellement, hop, ça aurait pu enfermer un petit bout de vie. Voyez. Et c'est là qu'on cherche, du coup, parmi ces pierres, la preuve que la vie a bien apparu il y a des milliards d'années. Parce qu'en fait, on le sait, mais il faut le prouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le scientifique, il émet une hypothèse, il dit « ça devrait être vrai, mais maintenant,
Pour que ce soit une réalité,
Il faut le démontrer.
Une vérité vraie, il faut le démontrer.
Exactement. Alors en fait, les indices de la vie dits à l'archéen, alors l'archéen, c'est entre 4000 et 2,5 milliards d'années en partant de nous. Donc moins 2,5 milliards d'années à moins 4 milliards d'années. Et en fait, elles sont très rares et elles se limitent d'ordinaire, en fait, aux stromatolites. Ouais. Pour un gars qui est dyslexique comme moi, c'est dur à dire ça. Donc, c'est des structures calcaires, en fait, qui sont construites par les cyanobactéries, en fait, via l'accumulation de leurs biofilms. En fait, en gros, hein, pour faire très simple, les bactéries, elles naissent, elles meurent, les autres naissent par-dessus, elles meurent, par faire des couches qu'on peut voir et qui ont fini par se transformer en pierre. Parce que des milliards d'années sont passées, donc elles se sont figées, fossilisées. Et en fait, ces couches, on arrive à les repérer aujourd'hui dans des gisements de roches. Et on dit, ah bah tiens, les roches ont 2 milliards d'années, par exemple, 3 milliards d'années. Et donc là, on voit qu'il y a ces couches qui ne peuvent avoir d'explication qu'à travers le fait qu'il y a eu un mouvement, un biofilm, en fait, qui a existé. Donc, qu'il y a eu du vivant. Et en fait, c'est une des preuves actuelles. Sauf que, en science, vous le savez, sûrement depuis que vous écoutez La Causerie, il faut confirmer ce que l'on observe. Et il faudrait arriver à le confirmer avec une preuve d'un autre genre, c'est-à-dire pas d'autres biofilms accumulés. Parce que sinon, bah, vous confirmez rien, vous dites juste, j'ai à deux endroits des strates comme ça. Donc c'est pour ça qu'on cherche depuis des années à trouver une solution. Eh bien, c'est l'équipe de Chris Yukinchuk, putain, c'est horrible ce nom, pardon pour la prononciation, mais pour moi c'est terrible, il y a deux Y. Alors je vais essayer de le dire mieux, Yukinchuk, ça doit être mieux comme ça, il vient de trouver avec son équipe des traces de vie insolites. Alors pourquoi on dit insolites? C'est pas qu'elles sont bizarres, c'est que c'est la première fois qu'on le trouve. Alors ça aussi, c'est faire attention avec les journaux. Souvent, les scientifiques, ils parlent d'insolites, mais quand ils parlent d'insolites, ça veut pas dire « Waouh, c'est génial, ça devrait pas être là !» Oui, non, ça veut dire « C'est la première fois !» D'où l'insolite, en fait, voilà. C'est le carbone d'un graphite coincé dans un rubis vieux de 2,5 milliards d'années qui a rendu son verdict. Alors, je vais un petit peu vous expliquer tout ça quand même, sinon c'est pas marrant. Alors, en analysant en fait la composition d'une inclusion de graphite dans un rubis groenlandais, c'est-à-dire des rubis qu'on a trouvés au Groenland, voilà, et pas au Groland, rien à voir. Autrement dit, en fait, c'est une trace de carbone, une impureté dans le rubis. Vous savez, quand on a une pierre précieuse, en fait, on regarde sa pureté, on regarde si elle est entièrement translucide. Ben là, il voit qu'il y a une trace, une petite tache. Et cette petite tache, c'est du carbone. Et ce rubis, il est âgé de 2,5 milliards d'années. Oui, parce qu'on sait dater les rubis avec des méthodes biochimiques qui nous permettent de savoir quel est l'âge exact d'une pierre ou d'un rubis. Voilà. Donc, Chris Yakimchuk et son équipe de chercheurs de l'université de Waterloo, ils ont pu déterminer que la pierre précieuse s'était formée dans un fluide hydrocarboné d'origine biologique. Alors ça paraît un peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'en fait, qu'à l'époque de la formation de cette pierre, elle baignait dans un environnement contenant des milliers de cyanobactéries et donc un endroit où la vie existait. Et ça, c'est hyper passionnant parce qu'en fait, ça permet comme ça de se dire « Ah, on va peut-être trouver quelque chose ».
Oui, ça veut dire que à l'époque de la formation de ce rubis,
ouais.
Elle était entourée de vie en fait.
C'est ça. Alors pour mémoire, hein, les cyanobactéries, c'est des bactéries photosynthétiques, hein, c'est-à-dire qu'elles utilisent le soleil et les UV en fait, ouais, en particulier pour vivre en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'elles tirent parti, hein, comme les plantes aujourd'hui, de l'énergie solaire pour synthétiser leurs molécules organiques. Alors petit rappel. Tout ce qui est vivant sur Terre est à base de carbone. Donc voilà, il faut rappeler de ça. Donc pour capter cette lumière, elles utilisent différents pigments. Les phycocyanides et les phycocyanimides, qui sont de couleur bleu-vert, voilà. Ou la chlorophylle, qui est verte. Alors la chlorophylle, vous voyez à peu près normalement, c'est ce qu'il y a dans les feuilles des arbres, donc ça devrait aller. Donc en fait, leur photosynthèse, comme celle des plantes, en fait, elle produit du dioxygène, l'O2. Vous savez, c'est ce qui nous permet de respirer. Et donc la molécule d'O2, elle est rejetée dans l'air, et cette production d'oxygène dans les cyanobactéries de l'océan a probablement été à l'origine de ce qu'on a appelé la grande oxydation, c'est-à-dire le moment où un paquet d'oxygène a été rejeté brutalement dans l'atmosphère terrestre il y a environ 2 milliards d'années. En gros, sans cyanobactéries, on ne serait pas là, pour le faire plus simplement. Donc, Chris Yakimchuk et son équipe, ils s'attellent à déterminer l'âge et le processus géologique à l'origine des rubis locaux au Groenland. Oui, parce que l'objectif est double, hein. Ils ne sont pas envoyés là-bas par hasard. Premièrement, c'est de développer des modèles régionaux de prospection plus précis. Oui, parce que je vous rappelle que la fonte des glaces et le réchauffement climatique, ça permet en fait au Groenland de pouvoir exploiter des filons de rubis. Voilà, donc c'est la fameuse ruée vers les rubis dans l'ouest groenlandais, ce qu'on a appelé la nouvelle ruée vers l'ouest. Et voilà. D'ailleurs, où la Russie, la France, les Pays-Bas,
le Danemark
sont en pointe pour y aller.
Hein, voilà. Ah bah le réchauffement, le dérèglement climatique n'est pas une catastrophe pour tout le monde. Hein.
Voilà. Mais aussi, en fait, cette équipe, elle voulait quand même vraiment pouvoir faire des études plus précises. Alors, c'est toujours un peu paradoxal parce que les scientifiques n'ayant pas de financement direct, il faut souvent qu'ils passent par ce genre d'études-là qui n'est pas forcément très clean. Mais aussi, ils ont décidé de s'en servir pour comprendre plus largement la formation des rubis dans le contexte géologique de l'Archéen tardif. Parce que si vous vous rappelez, on est à la fin de l'Archéen, c'est-à-dire qu'on est sur la toute fin du moment où il n'y a que des cyanobactéries vivantes, théoriquement. Et donc, en étudiant ces pierres retrouvées, hein, qui sont tombées sur cette trace de carbone. Alors, pour mémoire, sans carbone, je leur ai dit, pas de vie sur Terre. Hein, voilà. Donc, en observant le rubis, les chercheurs remarquent que cette trace de carbone est du graphite. Alors, le graphite, c'est un carbone assez particulier, mais que vous connaissez bien. C'est quelque chose qui contient du carbone pur. Il n'y a que du carbone. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous dis que vous le connaissez bien? Parce que c'est ce que vous avez dans les mines de crayons de papier. Voilà, okay. C'est ni plus ni moins que ça, le graphite. Voilà. D'accord. Donc le graphite, alors c'est le professeur qui parle, le graphite à l'intérieur de ce rubis était vraiment unique, dans le sens où en fait on pouvait l'identifier. Et on savait qu'en fait ce type de graphite, était issu de la fossilisation d'une forme de vie. Ah, pas mal, hein. Donc, ouais. Vous voyez. Et oui, comme le pétrole est issu de la fossilisation des arbres qui étaient là à l'époque. Voilà. Donc, je vous passe le côté technique des analyses de ce carbone, parce qu'on va peut-être pas non plus faire un cours de biochimie tout de suite, mais elles ont rendu leur verdict, et il est assez inattendu, parce qu'en fait, on pensait pas qu'à la première trace étudiée, on trouverait ça, mais en fait, ça tombe. Donc, le graphite contenu dans ce rubis a été transformé par la subduction. Alors là, oula, qu'est-ce que c'est la subduction?
Alors, c'est la subduction.
Voilà. C'est le fait que le manteau terrestre s'enfonce sous une une autre plaque tectonique. Okay. Donc c'est ce qui se passe au Groenland. Et c'est pour ça qu'en fait la pression et la chaleur qui est obtenue par ce glissement très lent mais très puissant, en fait va comprimer les choses, qui va permettre de créer le rubis. Vous voyez ? Et là, ça va enfermer tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc ça ne peut, d'après les études, ne provenir, ce graphite, que d'un organisme vivant. Et c'est donc la première fois que l'on trouve une trace de forme de vie dans un rubis. D'où la vie en rubis. C'est surtout, la vie a donc plus de 2,5 milliards d'années sur Terre. Et ça, on a une double preuve. Et quand on a une double preuve en science, on peut donc affirmer que c'est vrai.
Oui, c'est un fait établi.
Ça devient un fait établi. Alors maintenant, il va falloir faire d'autres études sur d'autres rubis, d'autres pierres et tout. Mais en fait, on se rend compte que cette nouvelle façon de déterminer qu'avec les traces issues de la mort des bactéries, c'est-à-dire ce graphite qu'on retrouve, on va pouvoir prouver que la vie était déjà présente il y a 2,5 milliards d'années. C'est juste génial, en fait. Et c'est donc en fait une avancée énorme, parce que nous savons aujourd'hui que la vie a donc des milliards d'années, et on a donc pu le prouver. Et ça peut vous paraître bête, parce que vous êtes là, vous dites, mais ça sert à quoi de savoir ça? Déjà, ça sert à savoir, tout simplement. Ça sert déjà à savoir, et puis savoir d'où on vient. Parce que je vous rappelle que ces cyanobactéries d'il y a 2,5 milliards d'années, c'est nos ancêtres directs. Que si elles sont pas là, on n'est pas là. Donc en fait, c'est vraiment une...
Il y a eu quelques étapes quand même entre...
Oui, il y a un truc qui s'appelle l'évolution, tout ça. Il y a un gars, Darwin, qui avait expliqué ça. Et puis pas que lui, il y a eu plein d'autres scientifiques qui en ont parlé après. Mais en fait, c'est important en fait, de comprendre d'où nous venons. Et puis comment la vie, en fait, elle a pu passer des épreuves terribles. Je vous rappelle qu'il y a eu 5 extinctions massives, dont 3 quasi totales de la vie sur Terre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le fait de remonter le fil comme ça, ça nous permet de comprendre le fonctionnement de notre planète. Et oui, et COP26, tout ça, ça doit vous parler en ce moment. C'est important de savoir comment elle fonctionne, la planète. Tu peux, à un moment donné. Et étrangement, en fait, par le passé, et par la connaissance du passé, et du passé biologique de la Terre, on peut éclairer le présent et l'avenir. Et c'est ça qui est important, en fait, dans cette recherche. L'Anthropocène, c'est ce qu'on vit actuellement. Je vous rappelle, l'Anthropocène, c'est la période où l'humain est ce qui a le plus d'impact sur la planète, tout confondu, c'est-à-dire même les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, tout. Non, l'humain dépasse tout ça, en fait, et dans son ensemble. C'est un peu un saut dans le vide, cet Anthropocène. C'est un moment qui peut nous inquiéter légitimement. Mais nous manquons en fait de modèles pour envisager certains impacts, parce qu'on a les grandes lignes, le dérèglement climatique, le réchauffement. Mais en fait, si vous interrogez les scientifiques, ils vont vous dire « moi en fait je suis incapable de faire du prédictif, parce qu'alors autant quand ça se réchauffe de 1,5 degré, je vois à peu près, mais alors dès qu'on passe 1,5 degré, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ». Et c'est pas qu'ils veulent pas le dire, c'est qu'ils n'en savent vraiment rien. Ils n'ont pas de modèles en fait. Et oui, parce qu'en science on a des modèles, on n'a pas des livres sacrés. Voilà. Et comprendre comment la vie a évolué, comment les êtres unicellulaires ont évolué, quels impacts ils ont pu aussi avoir sur la planète, ça peut nous aider à mieux gérer les catastrophes à venir, mais aussi les impacts imprévus que nous provoquons. Parce que, amis auditrices et auditeurs, les cyanobactéries, elles n'ont pas disparu. Elles sont toujours dans l'océan aujourd'hui. Elles sont toujours présentes. Et personne ne sait aujourd'hui quelle va être la réaction des cyanobactéries à un réchauffement et une acidification de l'océan. Parce qu'à l'époque de l'Archéen, les océans étaient acides. Et ils ont oxygéné la planète. Voilà. Vous voyez, c'est une des pistes, par exemple, qui aujourd'hui intéresse les scientifiques. Ils disent, mais alors attendez, parce que si elles se mettent à proliférer et que d'un seul coup, on a un dégagement d'oxygène maximum dans l'atmosphère, nous, on est prévu pour respirer avec 21% d'oxygène, pas 22, pas 24, pas 28. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui commence à intéresser. Parce que, quand vous comprenez d'où on vient, vous pouvez essayer d'avoir des modèles pour l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. C'est une des possibilités. Et en plus de ça, moi, je dois dire que le fait que tout cela explose l'ensemble des religions du globe est à de quoi me faire sourire. Je reste un anticlérical convaincu. C'est sans doute là que je me dis qu'il y a une des plus grandes éducations à la science qui est nécessaire. Parce que peut-être que quelque chose de positif pourrait sortir de tout ça, en fait. C'est sortir des croyances et des superstitions par la connaissance de d'où nous venons et par le déroulé scientifique. Et honnêtement, moi je vous le dis, c'est 10 fois plus passionnant d'aller se plonger sur d'où on vient, vraiment scientifiquement, que d'ouvrir un bouquin sacré qui vous dit, en fait, il y a un gars, il a claqué des doigts et vous êtes apparu. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, les outils dont nous disposons nous aident à de plus en plus entrer dans la précision et la plus fine possible. Le coup du graphite dans le rubis, c'est parce qu'on a aussi des appareils qui permettent de le faire. Et pour comprendre, en fait, constate l'évolution de la vie sur Terre. En comblant les zones méconnues de cette histoire, les sciences nous rapprochent de ce qui nous est le plus utile, la compréhension totale du processus d'apparition et d'évolution de la vie sur Terre. De quoi finalement nous réjouir de vivre à une époque où l'on a les moyens de faire reculer les obscurantistes et les obscurantismes, et de comprendre d'où nous venons. Voilà, c'était mon petit sujet sur la vie en rubis.
C'était bien. Non mais c'est intéressant. Enfin après moi je suis pas du tout scientifique effectivement et donc moi ça permet d'appréhender un peu les choses parce que
il y a beaucoup plus compliqué. Hein,
mais bien évidemment j'imagine très très bien.
Voilà.
Mais effectivement là aussi je pense que les choses qui doivent se faire c'est aussi la vulgarisation
bien
de
sûr.
La science. Alors, c'est ce que tu essaies de faire régulièrement ici. Mais je pense que c'est vraiment aussi une des tâches qui revient aux scientifiques.
Bien sûr.
C'est de rendre accessible le savoir. Parce que, oui, parce qu'on n'a pas tous forcément l'intérêt, pas forcément. Mais c'est pas parce que.
On croit que c'est compliqué. Parce que pour arriver à des conclusions, on passe par des trucs compliqués. Sauf qu'en fait, en réalité, ce qui est intéressant, c'est la conclusion.
Oui.
C'est-à-dire que là, dans ce qui est intéressant, dans ce que je vous ai dit là, retenez une chose, c'est qu'en fait, on sait aujourd'hui, de façon certaine, que la vie était déjà présente il y a plus de 2 milliards d'années. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant. Parce que ça renvoie à plein d'autres choses. Ça renvoie à la vie sur Terre, mais ça renvoie aussi à Mars. Vous savez, aujourd'hui, on cherche des traces de vie sur Mars. Ça veut dire que Mars, potentiellement, avait aussi des traces de vie. Et plus vous trouvez de traces de vie dans l'univers qui nous entoure, dans ce qui nous entoure, et plus ça veut dire que la vie n'est pas un phénomène
stricto terrien.
Et que donc en fait la vie c'est pas un truc exceptionnel, c'est un truc qui existe tout simplement et qui est une donnée de l'univers au sens large du truc. Et donc ça veut surtout dire que y a pas un dieu qui vous regardait assis sur un nuage et qui a dit oh regardez cette planète elle est jolie, elle est bleue, on va mettre les humains. Ça se trouve il a mis d'autres trucs ailleurs. Non, plaisante. Non, en fait il existe tout simplement pas le gars sur le nuage ou quoi que ce soit. Et qu'en fait c'est intéressant parce que tout ça en fait ça nous rapproche de quelque chose d'important. C'est d'ailleurs de comprendre notre fragilité, de comprendre le fait que on a un esprit suffisamment intelligent pour faire autre chose que s'autodétruire et qu'on a aussi en fait la capacité aujourd'hui de penser les choses sur le long terme. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre que la vie est extrêmement longue, que la planète Terre est extrêmement vieille et qu'en fait nous on est sur un caillou lancé dans l'univers et que nous on est là que depuis très peu de temps, quelques secondes à l'échelle de la planète.
C'est déjà tu dis
et on a un impact énorme.
Oui et puis là on parle de l'espèce humaine.
Oui.
Mais je veux dire, la vie d'un individu humain.
Ah, c'est que dalle, hein.
C'est micro millième de seconde, quoi. C'est rien.
Et ben, donc, quand on a compris tout ça, je trouve que ça nous pousse plus à bouffer la vie, à l'aimer, à la protéger, qu'à se dire, en fait, ça sert à rien, on a qu'à tous crever.
Oui, ou que voilà. C'est la destinée, ou que.
Ouais, voilà. Et je trouve, voilà. Et moi, c'est pour ça que j'essaye d'amener ça. J'espère que je vous donne envie de vous plonger dans tout ça.
Et ben, mes auditeurs et mes auditrices, n'hésitez pas à laisser vos avis. Alors, sur les commentaires, ça marche toujours pas, je crois, sur les blogs. Mais n'hésitez pas à envoyer
un mail
à causericanu@gmail.com parce que justement l'idée de la causerie c'est ça aussi, c'est de créer du lien entre vous et nous et que on parle pas juste pour nous deux, nous trois quoi.
Bah ouais.
Hein?
Bah surtout pas pour Clara, elle parle pas. Elle veut pas parler.
Non, elle monte juste les yeux vers le.
Ça se voit pas ce que tu fais dans la radio.
Mais c'est juste pour vous.
Quel luxe.
Du coup, moi, je vous propose d'aller voler au marché ou d'aller sur un marché volant. Je sais plus tant que comment.
Allons-y.
On dit ça. C'est parti. Tu es de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. Et oui, ma très mauvaise blague pour le Flying Market de Ouskai. Voilà, et c'était vraiment pas mal. C'est un beatmaker. Et moi, je vous conseille vraiment d'écouter tout ce qu'il fait. C'est très, très bon.
Ouais.
Voilà. Et donc, du coup, bah, on va passer un petit peu au bref,
ouais,
vite fait.
Très rapidement, on a juste deux brefs, si je ne me trompe pas. Donc, le premier rendez-vous, c'est jeudi 4 novembre. C'est en lien, alors, si vous suivez un peu l'actualité lyonnaise des milieux militants, vous savez qu'il y a 7 antifascistes qui ont été interpellés suite à la procureure qui s'est auto-saisie d'un truc qui s'est passé en manif anti-pass entre des antifas et des fascistes de Civitas et autres consoeurs fascistes. Sur les 7, 4 avaient été relâchés, si je ne me trompe pas. Enfin bref, en tout cas, il y a un rendez-vous qui est donné devant le tribunal judiciaire de Lyon. C'est au 67 rue de 67 de la rue Servian, pardon, dans, ouais, le 3e arrondissement.
Derrière la Bourse du Travail.
C'est ça, pas loin de la place Guichard.
Pas trop loin de la place Guichard.
Ok. Donc, c'est rendez-vous donc jeudi 4 novembre à partir de 14h dans le 3e arrondissement.
Il y a un tramway qui passe devant.
C'est ça aussi.
Voilà. Et le 6, donc le 6 novembre, bah, c'est une rencontre croisée et une exposition avec Guy Dechesne et Jean-Michel Lacroute. Alors, ils ont écrit chacun un livre. Alors, hop, le livre de Guy Dechesne, c'est Un siècle d'antimilitarisme révolutionnaire. Et le livre de Jean-Michel Lacroute, c'est Ligne en vrac. Et c'est autour de textes qui sont anarchistes, libertaires, de gauche contre l'armée et tout ça. Et donc l'idée, en fait, c'est de croiser l'ordre de regard antimilitariste, voilà, et aussi de proposer une exposition autour de tout ça. Et ça se passe donc à La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, voilà, et c'est à partir de 15h. Ça fait beaucoup d'informations pour deux livres. Mais voilà. Et en tout cas, voilà, je vous invite à y aller si vous avez envie. Ou pas, si vous,
ouais,
avez
mais c'est
envie.
Bien, là, ça fait 2-3 initiatives antimilitaristes qui reviennent. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant à l'heure où, même dans certains milieux militants, on aime à se gargariser sur les armes, les armées. Même si elles seraient révolutionnaires, ça reste le bruit des armes et l'odeur de la poudre et de la mort qui est jamais très loin.
Et si ce monde t'ennuie et que tu as envie de passer un petit peu de temps à faire autre chose qu'à regarder le monde, tu as envie d'aller au cinéma? Alors moi, je te dis, va voir Illusion perdue. Excellente adaptation d'Honoré de Balzac. Si tu veux, tu verras la naissance du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Tu comprendras pourquoi on est dans cette merde. Voilà. Et bon, comme quoi, c'est pas forcément drôle. Et si vraiment t'as envie de te détendre à mort et de te dire, oh, il faut que je m'éclate, et que t'aimes le sang et l'humour, eh ben, va voir Barbac. Voilà. De Fabrice Eboué. Parce que c'est très, très bon. Enfin, je sais pas si c'est bon, j'ai jamais goûté, mais par contre, le film est très bon. Vous comprendrez pourquoi je dis ça.
C'est drôle et glauque à la fois.
Voilà.
Voilà, je crois que nous on a fini. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22h, ouais, 23h, toujours sur l'antenne de Radio Canu, avec peut-être des invités.
Peut-être pas.
On verra. Et puis, je crois que c'est Clara qui a choisi. Non, c'est même pas je crois, c'est je suis
non,
sûr.
Non, on est sûr. Ouais. Non, parce qu'on la prépare un peu, cette émission.
Quand même. On dirait pas, mais quand même. Donc, c'est Clara qui va nous annoncer le titre de fin.
Oui, et il s'agit de la gymnopédie numéro 3 d'Éric Satie.
Mais c'est très bien tout ça.
Donc là, tu remontes la couette, tu te mets dans ton lit.
Et tu te laisses
et
aller.
Et tu te laisses aller. C'est beau.
Eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 22-23h sur l'antenne de Radio Canu. Et d'ici là, bon courage à toutes et à tous. Des bisous. Ciao.
Des bisous. Salut.
tu dis pas.
De l'argent, il y en a dans les